Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 6 Farvardin, 1401 du calendrier iranien, 26 mars 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le coordinateur de l'Union européenne se rendra à Téhéran pour combler les lacunes de la relance du plan global d'action conjoint. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré le président libanais à Beyrouth. L'Iran se réserve le droit d'exploiter le champ gazier commun à Arrache, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Les États-Unis, Israël et la Grande-Bretagne sont derrière l'invasion saoudienne du Yémen, a déclaré Abdelmalek Al-Houssi. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que l'Iran estimait que les événements de la région sont dans l'intérêt de tous les pays de la région et du Liban. Le ministre iranien des Affaires étrangères et le président de la République libanaise, le général Michel Aoun, se sont rencontrés ce vendredi à Beyrouth. La réunion a porté sur un ensemble de questions d'intérêt commun, y compris l'expansion des relations bilatérales et un examen des derniers développements régionaux et internationaux. Lors de cette réunion, Amir Abdollahian a déclaré « Nous suivons de près les développements du Liban et nous sommes des amis et des partisans de ce pays dans les jours sombres et pendant les périodes de calme. » Nous sommes prêts à coopérer dans tous les domaines avec le pays ami, le Liban, à la lumière de la situation difficile actuelle dans ce pays. Par ailleurs, le président libanais Michel Aoun a évoqué les problèmes économiques dont souffre le Liban et a souligné que tous les problèmes dans la région ont un impact négatif sur le Liban et que l'émergence de tout problème au Liban aura certainement des répercussions négatives sur toute la région. Le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne, Enrique Mora, qui agit également en tant que coordinateur des pourparlers de Vienne, a déclaré qu'il se rendrait en Iran alors que la pause se poursuivait dans les négociations visant à relancer l'accord de 2015 avec l'Iran. Dans un message sur son compte Twitter vendredi, Mora a déclaré qu'il s'entretiendrait samedi avec le négociateur en chef iranien Ali Barelikani à Téhéran. « Je voyage à Téhéran demain pour rencontrer M. Barilicani et travailler à combler les lacunes restantes dans les négociations de Vienne. Nous devons conclure cette négociation, a-t-il écrit. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Pour réagir à l'accord récemment annoncé entre l'Arabie Saoudite et le Koweït sur le champ gazier commun Arash-Dora, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « Le champ gazier Arash est un champ commun entre l'Iran, le Koweït et l'Arabie Saoudite et certaines parties de ses réserves se trouvent dans les limites des zones maritimes entre l'Iran et le Koweït. » Selon l'IRNA, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Selon le droit international, toute action d'exploitation et de développement de ce champ gazier doit se faire en coordination et coopération des trois pays. Par conséquent, l'action récente du Koweït et de l'Arabie saoudite, sous la forme d'un accord de coopération, est contraire aux procédures actuelles et aux négociations antérieures, et elle est donc illégale et n'a aucun effet sur le statut juridique du champ et n'est pas approuvée par la République islamique d'Iran, a-t-il ajouté. L'Iran se réserve également le droit d'exploiter le champ gazier commun Arash, a souligné Khatibzadeh. En Arabie saoudite, les installations d'Aramco brûlent encore dans le feu. La chaîne saoudienne Al-Hadas a signalé que 15 équipes de pompiers tentent de contenir l'incendie à la station de distribution de produits pétroliers Aramco à Jeddah. Al-Hadas a rapporté des diffusions en direct de l'installation qui était ciblée par les forces yéménites. Selon ses sources, Sana'a a souligné qu'elle avait l'intention de détruire les installations vitales d'Aramco à Ras Tanoura, Rabigh et Jeddah et que toutes les installations d'Aramco seront les cibles de ces attaques. Des sources militaires ont également indiqué que dans les prochains jours, Sana'a poursuivra ses attaques contre des endroits très sensibles en Arabie saoudite si le siège se poursuit. Abdelmalek al-Houssi, chef du mouvement yéménite Ansar Allah, a déclaré vendredi soir, à l'occasion de la journée de la résistance nationale, anniversaire de l'attaque saoudienne en 2015, que les États-Unis, le régime sioniste et la Grande-Bretagne sont derrière l'agression saoudienne contre le Yémen. Lors d'un discours télévisé, il a ajouté que depuis le début de cette agression, au milieu du silence international, la position humaine et morale appartenait à l'axe de la résistance et aux combattants libres de l'islam. Et enfin, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN élaborent des plans d'urgence pour toute éventuelle attaque russe sur le territoire de l'OTAN, a déclaré vendredi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, alors que le président américain, Joe Biden, se rendait en Pologne. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN faisaient des plans d'urgence pour la possibilité que la Russie choisisse de frapper le territoire de l'OTAN, a rapporté Reuters. Jake Sullivan, qui accompagne le président Joe Biden pour son déplacement en Pologne, a déclaré que les États-Unis pensaient qu'ils avaient toujours la capacité d'imposer davantage de coûts civils à la Russie. le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne, Enrique Mora, qui agit également en tant que coordinateur des pourparlers de Vienne, a déclaré qu'il se rendrait en Iran alors que la pause se poursuivait dans les négociations visant à relancer l'accord de 2015 avec l'Iran. Dans un message sur son compte Twitter, Mora a indiqué qu'il s'entretiendrait samedi avec le négociateur en chef iranien Ali Borelikhani à Téhéran. « Je voyage à Téhéran demain pour rencontrer M. Borelikhani et travailler à combler les lacunes restantes dans les négociations de Vienne. Nous devons conclure cette négociation », a-t-il écrit. Plus tôt ce mois-ci, les pourparlers de Vienne, destinés à ressusciter le plan global d'action conjoint, ont été interrompus pour une période indéterminée, malgré des informations suggérant qu'il en était aux étapes finales. Les États-Unis, à qui on reproche l'impasse actuelle, hésitent à prendre des mesures de confiance en raison de leur sortie de l'accord en 2018. Les responsables iraniens ont déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis devaient lever toutes les sanctions illégales contre la République islamique d'Iran de manière vérifiable et offrir des garanties qu'une nouvelle administration américaine ne violerait plus le plan global d'action conjoint avant de pouvoir rejoindre l'accord. L'ancien président américain Donald Trump a unilatéralement quitté le plan global d'action conjoint en mai 2018 et a réimposé les sanctions anti-iraniennes que l'accord avait levées. Il a également imposé des sanctions supplémentaires à l'Iran sous d'autres prétextes non liés à l'affaire nucléaire dans le cadre de sa campagne de pression maximale. En mai 2019, après une année de patience stratégique, l'Iran a décidé de lever certaines des restrictions sur son programme d'énergie nucléaire, recourant à ses droits légaux en vertu du plan global d'action conjoint qui accorde à une partie le droit de suspendre ses engagements contractuels en cas de non-respect par l'autre partie. L'administration du président américain Joe Biden se dit prête à compenser l'erreur de Trump et à rejoindre l'accord, mais elle a conservé les sanctions comme levier de pression. S'exprimant vendredi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a menacé que Washington augmenterait la pression sur Téhéran si les pourparlers de Vienne échouaient. Il a déclaré que des progrès substantiels avaient été réalisés dans la résolution d'un certain nombre de problèmes nécessaires pour que les États-Unis reviennent au plan global d'action conjoint sur une base de conformité pour conformité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est en tournée régionale. Il s'est rendu à Damas, capitale syrienne, où il s'est entretenu avec les plus hautes autorités syriennes, dont notamment le président syrien Bachar al-Assad. À Damas, le chef de la diplomatie iranienne, de Hossein Amir Abdollahian, et le président syrien Bachar al-Assad se sont entretenus des questions d'intérêt commun, de la coopération bilatérale, des questions régionales et internationales. Et après, en fait, son séjour à Damas, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Beyrouth, où il a rencontré les plus hautes autorités libanaises, son homologue libanais, le président du Parlement, et également le Premier ministre libanais, avec qui il s'est entretenu des questions d'intérêt commun, de dossiers régionaux et internationaux. Cette tournée régionale du ministre iranien des Affaires étrangères intervient à un moment où le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a lancé une sévère mise en garde au régime israélien de Hossein Salami, qui a averti en fait les ennemis de l'Iran contre la poursuite de leur hostilité. Je cite le général de division Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique: cessez le mal, sans quoi les rares ouvertures qui vous restent dans le monde seront bientôt fermées. Fin de citation. C'est en ces termes que le général de division Hossein Salami a lancé une sévère mise en garde aux ennemis de l'Iran, très particulièrement au régime israélien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission, depuis Bruxelles, un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, M. Luc Michel. M. Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission, depuis Paris, une analyste franco-syrienne spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Mme Aïssa Midani. Mme Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à vous, bonjour à l'équipe Presse TV, bonjour à votre invité et à tous les téléspectateurs.
Merci. Mme Midani, je viens de lancer le sujet, cette visite à Damas et puis à Beyrouth, et du chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, et également cette sévère mise en garde du commandant en chef et du corps des gardiens de la révolution islamique contre les ennemis de l'Iran, contre la poursuite, si vous voulez, de l'hostilité des ennemis de l'Iran. En fait, qu'est-ce que vous en pensez, Mme Midani?
En fait, c'est une visite très importante, surtout qu'elle survient aussi dans la période de congé en Iran. Je vous souhaite aussi, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Nowruz et une bonne nouvelle année, et à vous et à tout le peuple iranien. Visite très importante aussi qui a été juste après pour reconfirmer, je dirais, et insister sur la coopération stratégique entre les deux pays d'un côté. De l'autre côté, elle est venue juste aussi après la visite du président Bachar al-Assad aux Émirats Arabes Unis, qui manifestement, ils l'ont invité et donc qui manifestement avaient des messages à lui transmettre aussi, ou à travers lui pour l'Iran et pour d'autres pays, sans doute la Russie. Donc elle survient aussi à un moment très agité, très mouvementé de la situation mondiale, où notre allié important à nous deux, qui est la Russie, est agressé violemment par tous les médias occidentaux et agressé aussi par une sorte de mobilisation de l'ensemble de l'Union européenne et des forces de l'OTAN. Ceci vient tout de suite après aussi la destruction de la base de, comment dire, d'une base de, d'espionnage et de, d'entraînement israélienne dans le nord de l'Irak, en fait, à Erbil. Donc, c'est une période où il est important, effectivement, de réaffirmer un certain nombre de principes, de réaffirmer la coopération, de réaffirmer les accords stratégiques entre les différents alliés et aussi étendre, je dirais, l'ensemble des domaines dans lesquels on coopère avec ces alliés. Donc, cette visite revêt une importance grande dans la mesure aussi où elle n'est pas la seule. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps en Syrie, le ministre Abdellahian. Mais en fait, donc, ça exprime aussi non seulement une affirmation, mais aussi un besoin de coordination sur le terrain, au niveau du terrain. Je voudrais insister aussi sur le fait que le responsable de la sécurité nationale syrienne, Ali Mamlouk, est assisté aussi à cet entretien. Ça montre aussi qu'il y a aussi une volonté, une réelle coordination aussi sur le terrain en matière de sécurité pour les deux pays et en matière aussi de coopération au niveau sécuritaire, au niveau de coopération et de coordination, je dirais, au niveau sécuritaire, au niveau d'échange des informations. Donc, on met en place une coopération pérenne, je dirais. C'est pas du tout juste ponctuel, etc., mais plutôt pérenne et durable.
Et d'autant donc, plus que Madame Midani, cette coopération d'ordre sécuritaire entre Damas et Téhéran intervient à un moment où, je viens de le dire tout à l'heure, le commandant en chef et du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a lancé une sévère mise en garde au régime israélien.
Tout à fait, tout à fait. Et que les Palestiniens lancent aussi une augmentation, je dirais, une véritable offensive, effectivement, mais aussi, ils sont aussi dans un état où ils cherchent à s'unir, à réaffirmer la nécessité de la lutte même par tous les moyens contre l'occupant israélien, et un rejet total de l'ensemble de ces agressions, malgré le fait qu'elles s'accentuent de manière violente et sauvage contre le peuple palestinien dans tous les domaines, aussi bien à Jérusalem que dans les villes de Ramallah, de Naplouse, de Jénine, etc. Les violations israéliennes sont quotidiennes, les arrestations sont quotidiennes, les tueries aussi sont quotidiennes. Donc, en fait, cette mise en garde vient effectivement au moment important et opportun, je dirais, où l'ensemble des forces du front de la résistance s'unissent et renforcent, je dirais, leur unité et leur coopération stratégique autour à la fois du Yémen, à la fois de la Palestine, mais aussi autour de la Syrie et autour du Liban. D'ailleurs, la visite qui a eu lieu tout de suite après la Syrie, donc au Liban, montre tout à fait qu'il y a une volonté de cimenter cet axe de la résistance et d'accélérer, je dirais, à la fois son évolution et puis sa synergie dans le combat.
Luc Michel, venez d'entendre l'analyse de Madame Midani. Si j'ai bien suivi Madame Midani, là, il s'agit en fait d'une démonstration de force de l'axe de la résistance, tant sur le plan politique, et militaire et sécuritaire. Il s'agit, de, selon Madame Midani, si vous voulez, d'une volonté de cimenter l'axe de la résistance. Votre analyse, s'il vous plaît.
Tout d'abord, bonjour à vous, à Madame Midani. Et joyeux Nowruz à tous les Iraniens. Vous êtes une vieille civilisation et un vieil empire qui est combattu par un peuple sans histoire, les États-Unis. Le grand philosophe allemand Spengler disait que les Américains étaient passés de la barbarie à la décadence sans avoir connu le stade de la civilisation. C'est ce que je pense. L'axe de la résistance aujourd'hui, le partenariat stratégique et géopolitique entre l'Iran et la Syrie a aujourd'hui plus de 40 ans. Il a commencé avec une alliance opportuniste, mais aujourd'hui, il repose sur des bases géopolitiques fondamentales et une même vision de la situation du Proche-Orient. Cet axe de la résistance qui a été étendu au Liban, au Yémen, à l'Irak, au Qatar et à la Syrie, aujourd'hui, il rythme toute la politique du Proche-Orient et c'est cela la colère des Américains et de leurs alliés sionistes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est que la perspective que donne aujourd'hui le partenariat stratégique étendu avec la Russie, surtout et avec la Chine, elle a donné une nouvelle dimension. C'est une dimension eurasiatique à la portée de tout un continent. Aujourd'hui, l'axe Syrie-Iran, c'est la porte d'entrée vers l'Afrique et le Proche-Orient de l'Eurasie en marche. Au moment où on le voit d'ailleurs, actuellement, où il y a cette confrontation à propos de l'Ukraine entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie, on voit d'ailleurs les sionistes perdent leur position. La position de neutralité dans laquelle ils étaient voulu enfermer la Russie depuis des décennies n'est plus aujourd'hui possible. Ils vont devoir des choix et lorsque le président israélien Zelensky s'est adressé il y a quelques jours à la Knesset, il a montré toutes les limites du soutien israélien à ce partenariat occidental. C'est donc un Israël qui s'isole évidemment et qui fait face au contraire à un axe Damas-Téhéran qui, lui, a de gigantesques perspectives géopolitiques.
Mmh. C'est-à-dire, vous voulez dire, Luc Michel, que voilà, cette tournée régionale du ministre iranien des Affaires étrangères, en fait, s'effectue dans un contexte international très important, et de contexte international marqué par ce qui se passe actuellement entre la Russie d'une part et le camp occidental d'autre part.
Oui, parce que la guerre d'Ukraine, ce n'est pas du tout une guerre régionale ou une guerre économique comme on le raconte, c'est la volonté de Poutine de mettre un terme à l'ordre occidental né en 1990 à la fin de la guerre froide. Il s'est clairement exprimé là-dessus et ses conseillers aussi. Dans cette perspective, la guerre d'Ukraine, comme on l'a vu d'ailleurs lors du vote aux Nations Unies, elle concerne le monde entier. Et devant là, il y a bon, occidental, centré autour des États-Unis, qui combat un monde des pays qui sont décidés à déboucher sur un monde multipolaire, particulièrement en Afrique et au Proche-Orient. Il est symptomatique de voir que les alliés traditionnels de l'Occident, depuis des décennies, les Saoudiens, les Qataris ou les Émiratis, sont aujourd'hui dans la guerre du gaz et dans la guerre du pétrole, du côté de la Russie et du côté de l'Iran. C'est un bouleversement gigantesque. Le journal L'Express à Paris, il parle du bouleversement du monde et je partage cet avis. Donc cette tournée, elle intervient au meilleur moment et elle intervient pour solidifier des positions dans un monde qui est engagé aujourd'hui dans une confrontation mondiale.
Et Luc Michel, est-ce que c'est dans ce cadre qu'il faut interpréter cette récente mise en garde de ce haut responsable militaire iranien en la personne du général Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique?
Écoutez, ça fait très nettement comprendre aux Israéliens que le temps passé est révolu. Ce qu'on appelle dans les journaux français le monde d'avant, et le monde d'après va être très différent. Le journal de Financial Times a publié un éditorial très anti-russe, mais qui tire une conclusion. Il dit que la guerre d'Ukraine va conduire à une révolution géopolitique dans tous les domaines et que plus rien dans le monde d'avant ne ressemblera dans le monde d'après. C'est ce que les Israéliens doivent comprendre. Et évidemment, leur ancienne position, en profitant de l'alliance israélienne et d'une neutralité qui est due aux conditions particulières, à la présence d'une communauté russophone, d'un million d'individus en Russie, héritée de l'époque des refusniks soviétiques, cette époque-là est terminée. Israël, aujourd'hui, ne bénéficiera plus de cette neutralité en particulier vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de la Syrie. Israël va devoir faire des choix, d'autant plus que ce qu'ils avaient cru être un nouveau front organisé par Trump, les accords d'Abraham, l'alliance d'Israël avec les Émiratis, évidemment, ne va plus fonctionner. Le sommet du gaz à Doha a vu les Émiratis se ranger aux côtés de la Russie. C'est là aussi une véritable révolution géopolitique, puisque ce qu'on appelait l'OTAN du Proche-Orient était conçu par les Américains autour de la France, puissance maritime présente en mer Rouge, des Israéliens et des Émiratis. Aujourd'hui, les Émiratis, comme d'ailleurs l'Inde dans le Pacifique, sont le maillon faible de l'alliance occidentale. C'est cela qu'il faut retenir. Les Israéliens ne peuvent plus contenir, compenser et compter sur cette alliance, et ils vont devoir faire des choix qui, à mon avis, vont être déchirants. Mmh.
Madame Midani, s'agissant toujours de cette rencontre à Damas entre le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian et le président syrien Bachar al-Assad, venant en fait de l'indiquer tout à l'heure, cette visite aux Émirats arabes unis du président syrien Bachar al-Assad, cette récente visite, Amir Abdollahian s'est félicité de cette normalisation entre les pays de la région et la Syrie. Et s'agissant toujours des questions régionales et internationales, Amir Abdollahian a, si vous voulez, réitéré une fois de plus la position de Téhéran qui consiste à trouver des solutions pacifiques, si vous voulez, aux questions régionales et internationales. Ça aussi, c'est un point important, Madame Midani, n'est-ce pas?
Tout à fait. D'ailleurs, l'Iran a toujours pratiqué la politique de la main tendue et puis de la proposition toujours aux partenaires de l'autre côté du Golfe, en fait, de dire, de toute façon, pour assurer ensemble la sécurité de la région, pour avoir une amitié et un échange important, en fait, qui puisse couper court à toutes les ingérences, en fait, hein, et toutes les déstabilisations qui pourraient être provoquées par les forces étrangères à la région, c'est-à-dire les Américains, essentiellement les Israéliens. Malheureusement, en fait, et puis là, je veux dire, donc c'était un message important qui valorise à sa juste valeur aussi cette invitation qui a été faite par les Émirats arabes unis au président Bachar al-Assad, qui est en fait aussi, qui permet de comprendre que les Émirats, qui sont eux-mêmes aussi en général porteurs, je dirais, de l'ensemble de porte-parole ou les précurseurs d'un ensemble de l'ensemble des pays du Golfe, hein, En fait, c'est que c'est un aveu comme quoi ils s'étaient trompés dans dans leur position passée et qu'ils veulent revenir à la raison. Donnée à la Syrie dans sa lutte pour sa souveraineté et pour laquelle elle est soutenue par l'Iran et par l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Je crois que c'est important aussi de voir c'est une volonté en fait affirmée à chaque occasion que l'Iran est ouvert à tout débat. Que l'Iran est ouvert aussi aux discussions avec les Saoudiens et avec les Qataris, etc. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs aussi, les Qataris ont joué aussi dans ce sens pour créer des rencontres avec les Saoudiens, créer des rencontres. Les Qataris, comme le responsable, l'Oman, on joue un rôle important dans ces relations. Et on sait que, de toute façon, les relations de l'Iran sont très importantes et sont bonnes, je dirais, avec l'Oman, avec le Qatar. Et donc, à travers eux, ils essayent d'attirer l'Arabie saoudite vers des positions plus correctes, plus constructives, mais aussi avec l'Iran pour la région. Mais aussi, il est important de voir que pour cela, l'Iran ne fait pas de concessions non plus sur la question du Yémen, où ils affirment aussi à nouveau que de toute façon, l'Iran soutient la souveraineté du Yémen et elle est là aussi pour se battre aux côtés des Yéménites pour la levée du blocus. En fait, c'est une bataille importante sur le plan politique. En fait, comme nous en Syrie aussi, on est pour la levée du blocus contre le peuple yéménite, contre Gaza et contre la Syrie aussi, et contre l'Iran, parce qu'on est tous, en fait, des compagnons dans ces blocus qu'exercent les Américains, ces blocus criminels qu'exercent les Américains sur les peuples qui lèvent la tête et qui leur sont hostiles.
Voilà. Luc Michel, très, très, très rapidement, s'il vous plaît. Nous avons une, deux minutes au maximum devant. Et nous, les pays de la région sont revenus en fait à la raison, pour reprendre l'expression de Mme Midani. Est-ce que c'est l'effet, en fait, les pays de la région du Golfe Persique sont revenus à la raison? Est-ce que c'est l'effet également des réalisations de l'axe de la résistance, Luc Michel? Très rapidement.
Écoutez, vous l'avez très bien dit dans votre reportage d'introduction, c'est un message. Recevoir Assad, c'est un message à Moscou et à Téhéran. On ne peut plus, dans le monde d'après qui se prépare, on ne peut pas négliger et nier la Syrie, qui est le principal partenaire de Téhéran et de Moscou. C'est aussi un effet à la fois de la politique de l'axe de la résistance dans tout le Proche-Orient, mais aussi de la confrontation en Ukraine. Le monde d'après qui se prépare, évidemment, il a des partenaires solides et les trois capitales de l'Eurasie en marche, Moscou, Pékin et Téhéran, sont liées, évidemment, jouent un rôle stratégique capital. Les Émiratis qui sont engagés dans la guerre du gaz et du pétrole du côté des Russes et des Iraniens, évidemment, ne pouvaient pas continuer à maintenir des positions géopolitiques dépassées. Merci qui beaucoup. Le liaient aux États-Unis, c'est-à-dire une puissance qui voulait organiser la ruine économique de leur marché du gaz et du pétrole. En septembre 2015, lorsque les États-Unis donc, se sont emparés avec les hydrocarbures de schiste du marché du pétrole, ils ont déclaré à ce qu'on appelle l'OPEP et l'OPEP du gaz. Ils ont déclaré une guerre économique.
Merci.
Prendre le contrôle de ce marché, c'est détruire ces économies.
Merci infiniment, Luc Michel, géopoliticien belge, d'avoir été avec moi pour cette émission et depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Hamidani, analyste politique française, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré mercredi le président syrien Bachar al-Assad pour discuter avec lui de la coopération bilatérale et des développements régionaux et internationaux. Lors de cette rencontre, Hossein Amir Abdollahian, tout en félicitant les succès réalisés par la Syrie dans les arènes politiques et sur le terrain de la lutte contre ses ennemis, a réitéré le soutien de la République islamique d'Iran au gouvernement et au peuple syrien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'un nouveau chapitre des relations s'ouvre dans le domaine de la coopération économique et commercial entre les deux pays. Le développement de la coopération économique entre l'Iran et la Syrie est sérieusement à l'ordre du jour des relations bilatérales et la facilitation du transport et du transit entre les deux pays est envisagée. À cet égard, les interactions et les échanges entre les deux pays sont également importants. Se félicitant du processus de normalisation des relations entre les pays de la région et la Syrie, Amir Abdollahian a noté les points de vue communs des deux parties sur de nombreuses questions régionales et internationales et a souligné que dans les tensions régionales, la République islamique d'Iran s'oppose à toute guerre et appelle à une solution politique et pacifique. Pour Téhéran, retourner le chapitre des différends passe par le dialogue et des moyens politiques pacifiques. Le président syrien a qualifié les allégations de bonne volonté avancées par des responsables du gouvernement américain de sans fondement avant de qualifier la position de la République islamique d'Iran dans les pourparlers de Vienne de sage et de correcte. Soulignant que ce qui est important pour la Syrie, ce sont les approches de l'Iran, il a réitéré le soutien de la Syrie à l'Iran dans les pourparlers de Vienne. Bachar al-Assad s'attardant sur la visite d'un groupe d'érudits et sunnites iraniens en Syrie a déclaré que ce déplacement avait une signification importante. Il a demandé à Amir Abdollahian de transmettre les salutations du président du gouvernement et du peuple syrien au guide suprême de la révolution et islamique et au président Raisi. Les développements en Palestine et certaines autres questions bilatérales, régionales et internationales ont été également discutées lors de cette rencontre. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, après sa visite en Syrie, s'est rendu au Liban où il s'est entretenu avec les autorités de ce pays, dont le Premier ministre, le président du Parlement et son homologue libanais, des questions d'intérêt commun ainsi que des questions régionales et internationales. Le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a averti les ennemis de l'Iran contre la poursuite de leur hostilité contre le pays. Cessez le mal, sans quoi les rares ouvertures qui vous restent dans le monde seront bientôt fermées, a déclaré le général de division Hossein Salami, commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Sachez que pour
honorer nos martyrs, nous ne nous contentons pas de simples funérailles et que nous passons également à l'acte pour les venger, et ce alors que nous sommes entrés dans un nouveau siècle qui est celui de la décadence et de puissance diabolique de nos ennemis, a ajouté le général Hossein Salami. Dans une autre partie de son discours, le général Salami a précisé que pour la nation iranienne, la résistance aux pressions et aux menaces obéit à une logique qui ne se limite pas à une courte période de confrontation avec les ennemis. La nation iranienne a fait preuve de son esprit de résistance pendant les 8 années de la défense sacrée, pendant les longues années de sanctions et de pressions économiques face aux agressions des terroristes et à la campagne médiatique et culturelle de ses ennemis, a ajouté le commandant en chef du CGRI. Le général Salami a évoqué ensuite les récentes déclarations des responsables de la Maison-Blanche selon lesquelles le régime des sanctions imposées par Washington à la République islamique d'Iran aurait renforcé davantage les Iraniens et a ajouté « Le processus du déclin de la superpuissance américaine et de la civilisation occidentale a commencé il y a des années et s'est accéléré ces derniers temps. » Le commandant en chef du CGRI a affirmé que la logique de la révolution islamique est supérieure à celle de la civilisation occidentale et qu'elle est basée sur la supériorité de l'islam, la liberté des esprits et la fin de l'ignorance. Un membre du conseil politique du mouvement de la résistance des Yéménites, Ansar Allah Mohammad al-Bukhaiti, a déclaré que lorsque les régimes saoudiens et émiratis sont en danger, il devient dans l'intérêt des Américains et des Britanniques de mettre fin à la guerre contre le Yémen. M. al-Bukhaiti a fait savoir que c'est la première fois que nos opérations sont décrites comme une opération de rupture du siège. Il a expliqué que le Yémen dépend du diesel dans l'agriculture, ne tant que la coalition d'agression saoudienne sait qu'interdire l'entrée des dérivés pétroliers implique une interdiction de la vie au Yémen. Le dirigeant d'Ansar Allah a déclaré que son pays n'avait d'autre choix que d'intensifier et de frapper les installations pétrolières dans les profondeurs saoudiennes, soulignant que ces opérations se poursuivront de manière ascendante. Nous sommes sérieux quant à l'augmentation des opérations contre leurs installations pétrolières. Le Yémen possède un important stock de missiles balistiques et ailés ainsi que des drones, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, al-Bukhaiti a expliqué que nos opérations dans les profondeurs saoudiennes se poursuivront et s'intensifieront et ne sont pas liées à ce qui se passe en Ukraine et en Europe, soulignant que cela aura un impact important sur l'Arabie saoudite et Israël. Et d'assurer l'augmentation de nos frappes doublera la crise pétrolière mondiale. Le chef d'Ansar Allah a également souligné que la position internationale envers l'opération russe en Ukraine a dévoilé l'image criminelle de la communauté internationale, notant que la guerre contre le Yémen est incomparable à ce qui se passe en Ukraine et a dévoilé l'hypocrisie de tout le monde. Il a en outre estimé qu'il est erroné de réduire nos frappes en raison des circonstances que traverse le monde où le Yémen est devenu un acteur clé. Il a dans ce contexte prévu que l'Arabie saoudite se plie aux demandes américaines d'augmenter la production de pétrole, soulignant que la décision d'augmenter la production du pétrole en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis n'est plus entre les mains des États-Unis, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, uniquement, mais aussi entre les mains du Yémen. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie n'accepterait plus de paiement en dollars ou en euros pour la livraison de gaz à l'Union européenne, donnant une semaine aux autorités russes pour mettre en place le nouveau système en roubles. J'ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été de compromises, a annoncé le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion gouvernementale, expliquant qu'il s'agissait d'une réaction au gel des actifs de la Russie en Occident. Les États-Unis et l'Union européenne se sont déclarés en cessation de paiement sur leurs engagements vis-à-vis de la Russie et désormais chacun dans le monde sait que les engagements en dollars ou en euros peuvent ne pas être remplis. Livrer nos produits à l'Union européenne et aux États-Unis et recevoir des paiements en dollars, en euros et dans certaines autres devises n'a plus de sens pour nous, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.